Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression plurielle.
Expression plurielle.
Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui votre édition hebdomadaire de l'émission Expression plurielle. Aujourd'hui, dans les studios de la radio Info RC, nous avons la chance de recevoir la chorégraphe Laurie Péché-Pimont aux côtés de Laura Monnier, chargée de mission égalité au CIDFF. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors ensemble et avec l'association de danse contemporaine Forma, vous préparez une performance chorégraphique, collective et participative qui aura lieu sur la place de l'Agora à Aubenas le 25 novembre. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, une interview sous forme d'invitation au public à venir assister à cette marche chorégraphique qui réunira une cinquantaine de participantes. Et pour commencer par le contexte, la date du 25 novembre, pourquoi cette date ?
Alors le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Quelles sont les missions du CIDFF en lien avec la lutte contre les violences faites aux femmes ?
Alors l'association, le CIDFF, donc Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, est une association qui est nationale. Donc ça veut dire qu'elle est présente dans à peu près tous les départements en France. Et notre mission, c'est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc le sujet des violences, c'est un de nos sujets principaux, puisqu'on peut partir du principe que si on était dans une société égalitaire, il n'y aurait moins ou plus de violences. Donc l'association, le CIDFF, donc à Aubenas, on est une association d'aide aux victimes, donc ça veut dire qu'il y a des juristes qui tiennent des permanences et qu'il y a un accompagnement pour les femmes victimes de violences. Mais également des permanences du droit commun. Donc ça veut dire que toute problématique, une personne, femme et homme, peuvent prendre rendez-vous pour savoir qu'est-ce que dit la loi au niveau de leur situation, de leur problématique. Et un autre service qui sera plutôt le service emploi-formation, où donc là il y aura un accompagnement, surtout le volet professionnel. Donc ça part du principe qu'on va travailler sur l'insertion socio-professionnelle des personnes et spécifiquement des femmes. Et tout un volet aussi sur la parentalité, puisque le CIDFF porte les espaces de rencontre. Donc les espaces de rencontre, c'est sous décision du juge, donc du juge des affaires familiales. Donc il va décider, selon des situations, donc situations de violence, que le droit de visite pour l'un des deux parents avec leurs enfants se réalise dans un espace encadré, avec donc un accueillant, enfin des accueillants, donc en espace de rencontre.
Et il est où le CIDFF à Aubenas ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors le CIDFF à Aubenas, notre siège, il est au pôle de service au quartier des Oliviers. On a une antenne à Annonay. Et ensuite, on a une nouvelle antenne là, qui est en train d'être inaugurée, qui sera inaugurée justement le 25 novembre à Privas. Et donc là, il y aura plutôt une spécificité sur la parentalité, puisque ça va s'appeler la MADEF, donc Maison des droits des enfants et des familles.
Okay.
Et des permanences dans toute l'Ardèche.
Ok. Donc si on est victime de violence ou si on a des proches victimes de violence, on peut venir s'adresser à vous, notamment au pôle de service, là où est le siège.
Exactement. Donc si on est victime de violence, on appelle, donc il y a un numéro du CIDFF et ensuite on a un rendez-vous, oui.
Et toi Laura, tu es chargée de mission égalité, ça veut dire quoi ? Quelles sont tes missions au sein du CIDFF ?
Alors, donc, je suis chargée de mission égalité, ça veut dire que je vais aller faire des sensibilisations en milieu scolaire, donc du CP jusqu'à mon terminale. Je vais également coordonner des événements du type du 25 novembre et le 8 mars, donc la journée internationale pour les droits des femmes. Et ensuite, je vais coordonner d'autres aussi missions, comme le lieu d'écoute itinérant Nina et Simone.
Et donc, tu disais que tu coordonnes la journée du 25 novembre. À l'occasion de cette journée internationale, le CIDFF organise depuis plusieurs années une action départementale qui s'appelle « Une femme toutes les 48 heures ». C'est une action de prévention et sensibilisation. Déjà, le titre, il est assez choc. Enfin, il crée un effet de choc. Qu'est-ce que ça veut dire « Une femme toutes les 48 heures » ?
Donc une femme toutes les 48 heures, ça veut dire qu'une femme, tous les deux jours, donc toutes les 48 heures, est victime de féminicide. Donc est tuée par son conjoint ou ex-conjoint.
Et là, on parle des statistiques en France.
Oui.
Ok. Et cette action, une femme toutes les 48 heures, en quoi elle consiste ?
C'est un événement qui est en simultané à Annonay, Aubenas et Privas. C'est notre 3e édition et on va installer des chaussures qui sont peintes en rouge sur une place publique. Donc on s'inspire d'une installation qui a été créée par une artiste qui s'appelle Elina Chauvet, une artiste mexicaine qui, depuis les années 90, a créé cette installation puisque sa sœur est décédée donc dans les années 90 donc par son conjoint. Et donc elle a eu envie de rendre hommage à sa sœur et aussi à toutes les femmes qui sont victimes de féminicide. Donc l'idée, c'est de déposer des chaussures qui représente donc le nombre de féminicides qui a eu lieu dans l'année. Donc on peut imaginer, l'année dernière, en tout cas c'était 95 paires de chaussures, ça sera certainement, probablement autour du même chiffre, parce que c'est un chiffre qui ne bouge pas, qui stagne depuis plusieurs années. Donc l'objectif, c'est vraiment de matérialiser ce nombre. Pour reprendre ce que dit Elina Chauvet, elle dit « Ces chaussures témoignent l'absence de ces femmes et le vide qu'elles laissent derrière elles aux proches. » Voilà, ça c'est vraiment son intention, que donc du coup nous on garde, puisque c'est une installation qui est libre de droit. Donc depuis les années 90, dans tous les pays, des chaussures sont installées le 25 novembre. Et donc pour cette journée-là, on invite également nos partenaires, les partenaires qui sont aussi dans l'accompagnement de ce public, qui seront présents. Donc vraiment, l'objectif, c'est de parler de féminicide. Donc là, c'est les féminicides conjugales, dans le cadre conjugal. Donc c'est vraiment pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc il y a toute une sensibilisation, et également sur les inégalités aussi femmes-hommes. C'est aussi un moment où on va pouvoir faire cette promotion aussi sur l'égalité. Et quand même, au préalable, donc ces chaussures, elles sont peintes. Cette année, elles vont être peintes par une classe de terminale au lycée agricole et aussi avec les femmes qui travaillent à l'atelier, donc à Paysac, donc un chantier d'insertion. Et ces moments-là, donc c'est la semaine prochaine que ça commence, c'est un moment de sensibilisation où eh bien, on va échanger, on va parler du cycle de la violence, donc le mécanisme d'emprise, donc répondre à la question pourquoi madame, elle s'en va pas, et le contrôle coercitif, donc à l'inverse, comment monsieur s'y prend pour que madame ne part pas. Donc on va échanger ensemble et ensuite les élèves et les femmes donc de l'atelier vont choisir des chaussures et vont peindre. Donc c'est vraiment l'installation, elle commence à ce moment-là. Enfin, l'hommage commence à ce moment-là. Donc il y a plusieurs temps en fait dans cet événement. Mais le 25 novembre, c'est vraiment une journée où l'objectif, c'est vraiment de se rendre compte qu'est-ce que c'est 95 personnes. Et donc on va s'en rendre compte avec ces femmes.
C'est une action qui a pris de l'ampleur, cette action Une femme toutes les 48 heures. Ça fait 2 ans, Laurie, que tu as été invitée par le SCIDFF à venir apporter la danse contemporaine au sein de cette performance. Avec cette année en plus le partenariat avec l'association de danse contemporaine Forma. Pourquoi avoir choisi la danse contemporaine ?
Donc en 2023, donc pour la première édition, donc Une femme toutes les 48 heures, l'événement, nous avons eu envie, le CIDFF, de travailler avec une chorégraphe en lien avec, au départ, notre collectif qui s'appelle Tout Sport. Donc Tout Sport, c'est un collectif qui est destiné exclusivement aux femmes. L'idée, c'est de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi par le sport, par l'outil du sport. Et donc, nous avons imaginé que ce groupe, ce collectif, puisse être aussi également présent lors de cette journée, en tout cas qu'il y ait cette opportunité de rendre hommage, et en gardant cette idée du sport et donc par rapport au corps, de travailler avec une chorégraphe pour avoir aussi nos représentations en public. Ça, c'est une manière aussi de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi, parce que ce n'est pas rien. Et donc en 2023, elles étaient 6. Et donc Laurie a été invitée, on s'est vite aperçu que si de toute manière le collectif n'avait pas envie de porter toute seule, d'être devant le public, c'était un trop petit nombre. Donc on a fait un appel à danser, et là d'autres femmes nous ont rejoints, et là le groupe est passé de 6 à 20 femmes. Donc ça, c'était la première édition. L'expérience était folle. C'était fort de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, parce que le public, il y avait un silence incroyable. Bon, alors, bien sûr, après, des larmes, mais il y avait quelque chose d'incroyable, une sorte de... Tu peux prendre la parole en même temps.
On pourrait parler gérer une liesse, mais tranquille, une douce liesse, c'est-à-dire une douce joie d'avoir, je ne sais pas, traversé ce moment ensemble, autant en tant que danseuse que témoin, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont présents, et témoin en tant que spectatrice, spectateur. Et ce sont des sujets qui sont sensibles, voire hypersensibles, pas si simple que ça à aborder et pas si simple que ça à accueillir en soi et en conscience. Du coup, de faire collectif ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire toutes les danseuses, les partenaires et les spectateurs, qui est ce sort de momentum, de moments de reconnaissance réciproque et de reconnaissance de ces mortes, assassinées en fait. En tout cas, je nomme souvent vraiment le fait que la joie, elle ne se décrète pas, mais elle arrive, elle se puise aussi dans la reconnaissance de nos deuils, la reconnaissance de nos morts ou de nos mortes. Voilà, et donc du coup là c'était très clair qu'en fait, une énergie collective de douce liesse, de douce joie a émergé de ce moment-là. Et des fois, on a des larmes, mais des fois, ce sont des larmes très salvatrices ou très, comment dire, comme une médecine, en fait, des larmes, en fait. C'est une manière aussi c'est un soin qui coule de nos yeux.
Voilà. De pouvoir vivre ces deuils collectivement, puisque ce sont des questions collectives.
Oui, et puis on peut toutes se projeter, c'est-à-dire en fait, ces chaussures et cette danse, elle permet aussi d'incarner quelque chose. Et on peut toutes et tous se projeter. De toute manière, nous avons toutes et tous été sociabilisés à la violence et à la violence sexuelle. Ça, c'est qu'on soit victime ou pas, qu'on soit bourreau ou pas, nous sommes dans cette matrice-là, sociétale, cette matrice de genre aussi. Et donc, nous sommes toutes et tous sociabilisés par la violence sexuelle. Et donc, de reconnaître, en tout cas, d'avoir au moins un instant de reconnaissance pour les non-vus, les oubliés, que ce soit parce qu'elles ont été assassinées ou parce qu'elles sont tous les jours battues ou enfermées, en fait, dans une situation d'enfermement par le contrôle coercitif, ou être enfermé en soi, parce qu'en fait, on ne peut pas purger ces violences-là, on ne peut pas les extraire et les exprimer comme on aurait l'occasion, et surtout, ça nous ferait tous et toutes du bien. Voilà, du coup, il faut des médiations. Et il peut y avoir des médiations, comme le fait le CIDFF, qui sont des médiations politiques et des médiations sociales. Et puis, il y a des médiations qui sont artistiques.
Et donc toi, Laurie, en tant que chorégraphe, pourquoi tu as choisi de travailler sur les violences sexistes et sexuelles et d'utiliser la danse comme médiation ? Enfin, je crois que tu as un peu répondu là, mais...
Vraiment en partie, je pense que j'ai commencé par répondre par le haut du chou-fleur. Si on se concentre sur les racines, déjà il y a les racines personnelles, biographiques, en tant que victime ou survivante de violences sexuelles X et variées, qu'on ne cesse de découvrir en grandissant et en devenant, une adulte de plus en plus compétente. Voilà. Et même quand on est assez équipée, en fait, on continue de découvrir à quel point les violences nous ont façonnées. Ça, c'est l'aspect biographique. Pour avoir aussi beaucoup partagé ces questions-là, mais de manière extrêmement dans un contexte de friche extrême dans ma jeunesse, c'est-à-dire dans des collectifs féministes où il y avait cette conscience-là, mais qui était très vive, mais très peu articulée. Et donc, du coup, quelque part, c'était très violent de partager ça sans avoir d'outils. Assez d'outils et assez d'équipements, en fait, même pour dialoguer. Et aussi beaucoup parce que j'étais dans une forme... En fait, ça faisait un moment que des formes que j'avais mis en œuvre étaient derrière moi. Donc une grosse pièce chorégraphique, Waving, que j'avais fabriquée avec une complice, Lauriane Houbé. Et notamment en Ardèche, avec 50 participantes et participants ardéchois. À l'invitation de Format, dont nous parlerons ultérieurement, pour le festival de Format sur la place publique de Jaugeac. Je m'embrouille. Mais en tout cas, j'avais un peu ça derrière moi. J'avais travaillé avec des grands collectifs de gens et de jantes depuis des années. Et j'avais travaillé dans des grosses pièces massives. Donc pour moi, ça, la dimension de la masse reste comme un ancrage très important. Et en même temps, en tout cas, là, je vivais une grande période d'isolement. Et en fait, les compétences de l'isolement, c'est que parfois, ça demande à l'épuiser dans ses ressources. Et j'avais besoin de mettre en pause les métaphores environnementales que j'utilisais, notamment la vague, l'océan, la puissance océanique, pour quelque part parler de cette puissance collective sourde qui a à rassembler en fait les non-dits et les moi aussi. Quand je dis les non-dits, c'est en fait tout ce qui n'a pas encore été écouté, su par la société, su par l'entourage ou su en soi, mais aussi par ce qui commence à être un tout petit peu audible parce qu'il y a des mouvements comme MeToo qui ont commencé à faire émerger une parole collective. Et parfois ouvert quelques pavillons d'oreilles, ouvert quelques oreilles ou capacité d'écouter les violences subies par les femmes. Voilà. Donc c'est une sorte de rencontre entre une nécessité personnelle, je veux dire personnelle au sens individuel, et une nécessité artistique de pouvoir dire en fait j'ai vraiment envie de travailler avec cette matière-là. La matière des violences, la matière du peuple des femmes, la matière de l'entourage. L'entourage des femmes, l'entourage des familles et les enfants, qui sont souvent quelque part les grands oubliés des violences, notamment à l'âge conjugal, ou qu'on va mettre à la périphérie des violences, alors qu'en fait ils sont autant victimes que les femmes.
Et donc de Waving, tu es passée aux Vaillantes.
Ouais.
Pourquoi ce nom de Vaillante ? Parce que c'est le projet chorégraphique que tu mènes s'appelle Vaillante.
Oui.
Pourquoi ce nom Vaillante ? Qui est au pluriel, hein, Vaillante au pluriel.
Ouais. Déjà, c'est pour parler d'un peuple, celui du peuple des femmes. C'est pour choisir un nom d'incarnation, c'est-à-dire on parle de personnes qui sont vaillantes. Et en même temps, d'un fond d'action. C'est quoi être une vaillante ? La réponse est polysémique, c'est-à-dire que quand on laisse résonner ce mot en soi, et c'est comme ça que je travaille et qu'on travaille, ça fait émerger plein de notions, comme tenter de rester mobile ou de remettre de la mobilité à des endroits où on a été immobilisé, glacé, sidéré, congelé. Ça peut parler des forces intérieures, des ressources qu'on a ou qui nous restent, des fois des ressources très résiduelles, mais qui suffisent pour planter des germes de résurgence, de sortie de dépression, de sortie de post-traumatique, de sortie de situations difficiles et qui fleurissent. Il y a quelque chose qui fleurit dans le fait d'être éveillée, vaillante. Il y a le fait d'être vigilante et peut-être plus veilleuse que vigilante. On est souvent en fait, amenée en tant que femme à être survigilante et suréquipée de vigilance. Je peux vraiment en témoigner pour avoir tellement marché la nuit dans tous les centres-villes de France, d'Europe. Voilà. Mais c'est surtout à l'aspect collectif d'être veilleuse, c'est-à-dire en fait, comment est-ce qu'on peut constituer des veilles les unes pour les autres. Un peu comme, alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est là autour de la table qui l'avait dit et ça m'avait fait très plaisir parce que je le pensais vraiment, mais un peu comme ces tours de garde, par exemple dans le paysage ardéchois, qu'on pouvait animer, allumer pour annoncer en fait le besoin en fait de rassembler les forces ou rassembler la vigilance collective. Voilà, on pourrait rallumer ces tours-là, par exemple. Et ça a aussi à voir avec le fait d'être aidante pour soi et les unes pour les autres. J'ai de plus en plus envie de développer la notion de père aidance au sein, en fait, de ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment trop comment prendre, quand on n'est pas experte, de recevoir la parole de violence. On ne sait jamais trop comment prendre ou accueillir la parole. On n'est pas forcément très bien équipé pour ça. Il y a des spécialistes, comme les personnels du CIDFF, par exemple. Mais je pense qu'en fait, on est toutes et tous capables de père aidance, c'est-à-dire de pouvoir... En fait, on a une expertise des violences pour les avoir vécues ou pour avoir été socialisées avec elles. Enfin, en tout cas, elles nous ont socialisées. Ou parce qu'on est dans l'entourage de violence. Et donc, du coup, c'est aussi dire qu'en fait, ces traversées-là, elles nous ont donné des compétences. Elles nous ont bien sûr donné des difficultés. Ça nous a offert des difficultés, mais ça nous offre aussi des compétences qui sont de pouvoir s'accueillir les unes les autres, s'écouter les unes les autres, et constituer en fait des modes d'écoute, des modes d'organisation, des modes de pair et danse en fait, où on est autant experte que les experts juridictionnels, que les experts politiques, que les experts de l'écoute. Et tout ça, c'est un travail de fond qui n'est pas fait, qui est à faire, mais tout est là.
Pour rebondir ce que tu viens de dire, par rapport au collectif, l'expérience de l'édition 2023, le fait que ces 20 femmes, moi j'appelle ça la magie du collectif. Voilà, elles vont aussi par leur expérience, par leur écoute. Il y a quelque chose d'incroyable entre elles qui se sont passées aussi à ce moment-là. Victimes ou pas de violences conjugales, mais comme tu dis, les femmes... ont été ou ont en tout cas vécu des inégalités forcément dans leur vie. Ça, c'est aussi cette expérience, elle amène à ça, oui.
Et cette performance chorégraphique, elle sera à voir le 25 novembre sur la place du Champ de Mars, la place de l'Agora à Aubenas. Pourquoi ça fait sens de la proposer dans un espace public ?
Pour moi, le plus gros raccourci, c'est l'intime et politique. Donc en fait, ce n'est pas de l'intime, en fait. Ces féminicides ne sont pas des histoires de violence de couple, par exemple, ou des enfants qui meurent sous les coups de leur père. Ce n'est pas une histoire de famille isolée. En fait, c'est notre histoire, c'est notre humanité, c'est notre collectif. Et du coup, nous sommes toutes et tous responsables, en fait, de cette situation et de ces disparitions, de ces morts. C'est comment dire, postuler d'emblée que ce sont des violences systémiques et qu'elles appartiennent à la société de les prendre en compte, de les regarder et de faire un effort d'humanité pour que, en fait, on puisse être dans des droits humains simples, souverains, élémentaires. Je vais dire ça comme ça. Et après, ben, y a plein de travail à faire dans des endroits plus privilégiés. On peut être dans l'intimité entre femmes, par exemple, mais pas que, aussi entre alliés, en mixité choisie, en mixité large. Et juste, j'en profite pour préciser que quand, en tout cas, à titre personnel, je rentre dans le mot femme, ça comprend en fait toutes les personnes qui se reconnaissent dans dans cette identité de sociabilisation femme, en tant que femme. Ça peut bien sûr inclure les personnes non-binaires, les personnes queer et femmes trans, etc. C'est simplement de se ressentir dans la perspective historique qui nous a fabriquées en tant que femmes, ou nous fait percevoir en tant que femmes.
Je crois qu'on a déjà parlé des précédentes étapes du projet. Là, on est presque début novembre. Quelles vont être les prochaines étapes du processus de fabrication de Vaillante avant le 25 novembre? Je sais qu'il y a des ateliers qui sont organisés, mais on m'a dit qu'ils étaient complets. Donc à l'antenne, là, on ne fait pas forcément un appel à participation aux ateliers, plutôt un appel à venir voir la performance du 25 novembre, mais peut-être dire ce qui vous attend pour ce mois de novembre.
Oui. Donc c'est en tout cas la proposition de danse, la création de ces Vaillantes 1, une marche d'ouverture. C'est une marche dansée et c'est un projet qui est coporté par Forma, en fait, ou un territoire de danse en Ardèche. Donc c'est une association qui promeut quelque part la danse contemporaine sur tout le territoire ardéchois. Et aussi la pédagogie de la danse et la culture chorégraphique au sens large. Et donc pour Waving, nous, à l'époque, avions déjà été accueillis par Forma pour mettre en œuvre cette création de Waving en 2019 pour le festival de Forma. Et en tout cas, sur le projet des Vaillantes, on a eu envie, avec Forma, de se rembarquer sur ces propositions que je fais de danse grand format. Donc en fait, Forma accompagne ce projet de création, que ce soit, enfin, je veux dire, à peu près à tout point de vue, que ce soit pour l'achat du spectacle, l'accompagnement à trouver dans la suite des partenaires pour que cette forme puisse s'expandre ailleurs. Et bien sûr, recruter quelque part, en fait, c'était faire visibilité et faire appel à des femmes pour participer à cette performance. Donc ce processus d'appel à participation a commencé en septembre. On a fait une première réunion d'information fin septembre et on va dire que le groupe était déjà quasiment au complet. Donc nous avons ouvert un peu les portes pour que le groupe soit un tout petit peu plus large. Et là, nous allons commencer à travailler à partir de la mi-novembre en grand groupe, en demi-groupe et puis après dans l'espace public et le jour J de la performance avec une cinquantaine, soixantaine de femmes. Voilà.
Il y a une réponse massive, en fait. Oui. On sent qu'il y avait un besoin à cet endroit.
Il y a un grand besoin, en fait. On était étonnés de la fluidité de la réponse, c'est-à-dire à l'appel à participation. Enfin, tout a été très fluide à mettre en place, quelque part, parce qu'en fait, ça répond. Donc, ça répond à un besoin. Les partenaires aussi étaient extrêmement prêts, en fait, et disponibles et enthousiastes à activer, quelque part, à chercher des participantes, à faire la médiation dans leur lieu, comme Solène, les CMP, les centres médico-psychologiques, etc. Où, du coup, ce sont des personnes et des associations support qui viennent avec des femmes qu'elles accompagnent, et du coup, tout le monde va s'investir dans la danse de manière horizontale, c'est-à-dire autant les femmes qu'elles accompagnent que les encadrantes. Il y a des personnes qui viennent, qui ont déjà travaillé avec moi depuis Perpète, quasiment 2018, et qui sont là tous les coups. Et il y a des personnes que je connais ni Dev. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Simplement qu'en fait, on aimerait, vu que ça déborde, c'est-à-dire en fait, la demande déborde, on aimerait pouvoir faire une proposition pour les personnes qui aimeraient s'impliquer, mais pour qui ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on ne peut pas contenir la place du Champ de Mars, le cadre de travail que je propose, c'est-à-dire l'équipe artistique. Et on serait trop débordés, et ça ne serait pas bénéfique pour ni la cause, ni les personnes qui s'engagent, etc. Mais on aimerait trouver une proposition à faire aux personnes qui aimeraient s'engager, ne peuvent plus parce que c'est full, la jauge est explose, mais qui, par contre, peuvent commencer à faire un travail de témoin. De regardante, de regardeuse, de veilleuse et de témoin. Et s'embarquer avec nous à la prochaine occasion, qui sera de plus en plus massive, je vous le promets.
Oui, parce que nous avons besoin de soutien, donc ça veut dire de public. Donc c'est aussi une manière de contribuer, de participer, c'est de venir le 25 novembre à la place Agora, de 10h à 15h.
Ouais, parce que donc ce jour-là, il y aura plusieurs... rendez-vous, plusieurs propositions place de l'Agora le 25 novembre. Concrètement, on va en parler des différentes propositions, mais avant ça, peut-être dire cette marche chorégraphique, concrètement, si on vient en tant que public, qu'est-ce qu'on va voir, à quoi ça va ressembler?
Alors, je peux dire que c'est une marche chorégraphique qui ressemble aux marches dansées qu'on a pu voir dans l'histoire de la danse, la chorégraphie, comme par exemple la chorégraphe Pina Bausch faisait beaucoup de processions, beaucoup de marches dansées, comme la marche des saisons, par exemple, The Seasons March, où du coup, en fait, quatre mouvements symbolisent les quatre saisons et sont inlassablement répétés. Soit par des danseurs professionnels, qui sont des grands danseurs de ballet, soit par des danseuses et des danseurs amateurs, amateuristes. C'est une danse qui est extrêmement partageable. Je reprends le principe de danse symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la violence. Par contre, la tenue qu'on va avoir, la présence qu'on va y mettre et les gestes symboliques qu'on va porter et incarner vont commencer à raconter une histoire sur les gestes primordiaux de l'histoire des femmes. Voilà, donc c'est comme un petit jeu d'énigmes où chacun, on peut reconnaître en fait des formes, des bouts d'histoire et se faire sa propre histoire avec ces éléments de gestes. Mais quelque part, il y a un secret interne à ce que chaque geste raconte. Et je peux juste en citer un, c'est paléo-vulve. Par exemple, il y a un geste qui s'appelle la paléo-vulve. Je vous laisserai la reconnaître, vous pouvez venir le 25 novembre pour la reconnaître.
Ce sera le mardi 25 novembre, une performance chorégraphique qui sera performée à deux reprises. À quelle heure on pourra la voir, cette marche? Parce que tu dis que la place va être animée de 10h à 15h, mais la marche, elle va être...
C'est ça, donc l'événement a lieu donc, de 10h à 15h, et donc deux représentations pour la marche chorégraphique à 12h15 et 14h15.
Et à partir de 10h, il y aura les chaussures aussi qui seront sur la
place. À partir de 10h, donc il y a les chaussures qui seront installées, les partenaires qui seront présents, et j'appuie ce qu'a dit Laurie tout à l'heure, on a un vivier partenarial important et très très enthousiaste pour cet événement qui sont présents depuis 3 ans. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais voilà, une quinzaine de structures seront présentes. Et ce que je voulais aussi quand même ajouter, parce qu'on a parlé des chaussures rouges, mais on va cette année établir un monument aux mortes qui représente les femmes des deux éditions. donc avec leur prénom et leur âge, pour aussi ne pas oublier en fait ces deux éditions et les femmes qui ont été tuées du 25 novembre au 31 décembre. Voilà, elles ne sont pas souvent citées. Et à côté des chaussures rouges, il y a aussi une indication sur les prénoms, les âges des femmes et comment elles ont été tuées, et des petites chaussures, puisqu'on représente aussi les enfants qui sont tués au moment du féminicide. Et on symbolise aussi les suicides forcés. Donc ils seront symbolisés par une pyramide de chaussures qui seront, elles, non peintes. Donc là, c'est la deuxième année qu'on a mis en place, puisque donc c'est des chiffres qui sortent de l'observatoire de Centre Bertine Auclair, qui depuis 2021 essaie aussi de faire des études. Donc les services de police et gendarmerie enregistrent 684 victimes de violences ayant tenté de se suicider suite au harcèlement de leur ex-partenaire, donc dans l'ensemble du pays de l'Union européenne.
En 2025
Alors là, c'est les chiffres de 2021.
D'accord, ok.
Mais ouais, ça, c'est aussi un sujet qu'on aborde aussi lors du 25 novembre.
Donc, tu sais qu'il y avait une quinzaine de partenaires. Concrètement, ce sera des stands avec de l'information. On pourra s'adresser aux différents partenaires.
C'est ça. Donc, c'est des stands, après des échanges qui sont possibles avec les partenaires, oui.
Et le 25 novembre, toujours à l'occasion de cette journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles, un autre rendez-vous est donné par la médiathèque Jean Ferrat à Aubenas. C'est également en partenariat avec le CIDFF. C'est la projection du film Shayla. C'est un film documentaire. Cette semaine, on en parle plus en détail dans La Vagabonde sur la radio Info-RC. On a reçu ici, dans ce même studio, le réseau des bibliothèques et médiathèques du bassin d'Aubenas, qui nous ont parlé de cette projection, des autres projections qui ont lieu dans le cadre du mois du film documentaire, c'est en novembre. Et pour revenir à la projection de Shayla, ce sera donc après le rendez-vous à l'Agora, ce sera à 18h30 à la médiathèque. Et à l'issue de la projection, il y a un échange qui est prévu avec le CIDFF, ce sera toi Laura qui sera là. Comment vous avez pensé cet échange ?
Donc nous avons pensé cet échange donc avec les médiathèques d'Aubenas, de sorte que nous serons support, donc le CIDFF, pour répondre aux questions. Il y aura une explication justement du cycle de la violence et le contrôle coercitif. Un échange avec le public qui peut se faire donc à l'issue de ce film, qui a bien sûr le sujet, le personnage principal, victime de violence conjugale.
Et vous avez parlé du cycle de la violence, tu as expliqué tout à l'heure ce que c'était. Le contrôle coercitif, on l'a entendu plusieurs fois pendant l'interview. Est-ce que peut-être vous pouvez expliquer ou réexpliquer, peut-être ça a été dit ou j'ai...
La notion de contrôle coercitif va regarder en fait quels sont tous les agissements d'un agresseur, ou en tout cas d'un conjoint qui enferme dans une situation sa compagne sans qu'elle puisse s'échapper. Donc c'est d'abord, en fait, on va dire, l'étude des comportements et des actions consciemment mises en place par le conjoint pour mettre sa compagne sous emprise. C'est plus une situation d'enfermement, finalement, où il peut y avoir par ailleurs des violences physiques. Donc c'est d'abord une stratégie de violence psychologique graduée. Au CIDFF, il y a le violentomètre qui fait partie des outils pour lire en fait les différentes étapes de coercition. C'est une notion qui est très importante parce qu'elle permet de regarder la situation du point de vue des auteurs et non pas du point de vue des victimes. Et donc aussi de déculpabiliser, en fait, d'arrêter de mettre la charge sur les victimes, de s'extraire de la situation alors que tout est déjà fait pour qu'elles n'aient pas les moyens de s'extraire. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette notion de contrôle coercitif, c'est qu'elles ne sont pas du tout issues d'études féministes, hein, entre guillemets, mais ça vient d'abord d'études qui ont été réalisées à la suite du retour de soldats, officiers, aviateurs américains de la guerre de Corée, et qui ont collaboré avec l'ennemi. Et ils ont collaboré avec l'ennemi non pas en étant quelque part forcément atteints dans leur intégrité physique, en fait, dans leur intégrité physique, mais plutôt par des stratégies, en fait, d'emprise psychique. Mmh. Et donc, c'est vraiment... personne n'a compris au retour de ces soldats, qui étaient officiers, experts de la guerre, et en fait, qui sont capables, quelque part, d'évaluer des stratégies. Personne ne comprenait comment ils ont pu collaborer. sans avoir été forcément, par exemple, torturée ou sous menace physique directe. C'est de ces études-là qu'est née cette notion de contrôle coercitif qui a éclairé les différentes étapes qu'utilise, donc là c'était, je veux dire, l'armée coréenne, mais qu'utilise un auteur pour mettre en place des stratégies d'emprise et donc du coup d'enfermement. Et qu'une situation d'enfermement peut être d'une violence extrême, même si elle est psychique. Dans un tiers des féminicides, il y a une étude au Canada qui recense le fait que pour un tiers des féminicides, il n'y a pas eu de coups qui ont précédé le meurtre, l'assassinat de la femme. Donc ça veut dire que, en fait, c'est pas forcément la violence physique qui est le premier indicateur, qui est le premier drapeau rouge pour, quelque part, constituer des preuves d'une maltraitance. En fait, ça peut commencer bien en amont. C'est aussi une notion qui commence à être légiférée, qui a commencé à être légiférée en Écosse. Enfin, il y a eu des pays modèles, mais la France est en train de se constituer, essaie de se mettre en proue de cette notion sur le plan législatif et de s'équiper. Donc c'est déjà passé grâce à une chercheuse, Andrea Gruev-Ventila. C'est déjà passé quelque part, ça a passé la barre de l'Assemblée nationale. Il faudrait que ça passe la barre du Sénat. Et ça permet vraiment de renverser le point de vue, de regarder les agissements des auteurs, mais pas simplement pourquoi madame n'est pas partie, et pourquoi elle s'habille comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Continuons à enfermer la femme dans un autre réseau de culpabilité. Ça permet de beaucoup mieux comprendre comment des enfants sont assassinés et de commencer à un tout petit peu refermer le boulevard qui est... offert aux auteurs de violences conjugales et de violences intrafamiliales, le boulevard qu'elle leur est offert pour, quelque part, exécuter des violences à l'encontre de leurs enfants.
Donc, et pour démêler tout ça, rendez-vous le mardi 25 novembre à Aubenas pour revenir à cette journée organisée en Ardèche. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos concernant la programmation du 25 novembre ?
Donc, sur le site internet du CIDFF de l'Ardèche, et également sur les réseaux, donc Facebook, le CIDFF de l'Ardèche.
Et toi, juste pour terminer cette interview, toi, Laurie, quelle va être la suite pour Vaillante après le 25 novembre? Et peut-être quels sont tes prochains projets artistiques?
Alors, Vaillante a vocation à se démultiplier, j'espère. Déjà, cette Vaillante-là, c'est-à-dire Vaillante 1, une marche d'ouverture, on aimerait qu'elle puisse avoir lieu dans d'autres espaces, d'autres occasions. Et en fait, j'ai déjà entamé, par le biais d'une résidence à Forma, enfin accueillie à Forma en janvier dernier, j'ai déjà commencé à élaborer les germes d'autres vaillantes, c'est-à-dire en fait les autres formes que prendront les vaillantes. Donc ça veut dire d'autres chorégraphies, d'autres groupes, d'autres sujets. Je lance officiellement la campagne pour Vaillante 2 qui va ancrer son sujet vraiment sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève le couvercle des féminicides et on regarde la grosse cocotte et on va dire on va plus travailler sur le continuum des violences sexistes et sexuelles. Et ça va plus s'organiser sur le cercle, sur un cercle de feu. On va être sur un autre type de matériaux chorégraphiques, d'énergie, et encore avec un groupe encore plus ample, et petit à petit engager aussi des alliés, des garçons, des hommes cis, pas forcément tout le temps, mais voilà, ça va engager différents cercles de personnes.
Et avant de terminer cette édition de Expression Plurielle, dire que une action toutes les 48 heures, c'est une action départementale portée par le CIDFF. On a parlé en particulier de la journée qui se déroule à Aubenas, mais tu disais tout à l'heure que ça se déroule aussi en simultané dans d'autres villes en Ardèche. Ça se déroule où ?
À Annonay, à la place de Cordeliers, aux mêmes horaires, de 10h à 15h, et également à Privas, à la salle du Boulodrome.
Et donc on retrouvera les performances avec les chaussures, la dénonciation des féminicides, les partenaires. Mais la danse en elle-même, elle sera vraiment à Aubenas. Par contre, la performance chorégraphique, c'est uniquement à Aubenas.
Exactement, c'est ça.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot avant qu'on conclue ?
Oui, la danse a lieu à 12h15 et à 14h15, mais moi, à titre personnel, je vous invite à venir avant, c'est-à-dire déjà à venir vous approprier l'espace, vous approprier peut-être discuter avec les partenaires, etc. Et du coup, avoir la chance d'observer comment l'espace se transforme avec la danse ou pas. mais il y a quelque chose qui s'engage, qui est unique, si on voit aussi cette transformation entre l'avant et l'après.
Et moi, j'en profite pour dire qu'en lien avec cette journée internationale de mobilisation, il y a également une proposition du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas et de l'association La Fougue le 29 novembre, c'est aussi à Aubenas, avec des ateliers d'initiation à l'autodéfense féministe avec la méthode Riposte. Donc ça va être une semaine avec un agenda bien rempli. Et en attendant ces dates, restez avec nous sur le 88.6. On aura l'occasion de reparler de toutes ces questions. On vous redonnera aussi ces actualités dans nos matinales. Merci à vous. Merci Laurie, merci Laura.
Merci.
Merci d'être venue porter ces sujets au micro de la radio InfoRC. Merci au CIDFF, merci à l'association Forma. À bientôt, mardi 25 novembre, place de l'Agora à Aubenas.
À très bientôt.
Expression plurielle. Une action soutenue par la préfecture politique de la ville, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas et la caisse d'allocations familiales.